En Corinthiens chapitre 9, si vous le voulez bien, en Corinthiens chapitre 9. En Corinthiens chapitre 9, on a dans la Bible d'étude, Paul défend son apostolat, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui voulait se défendre, pas du tout. Comme la plupart des vrais chrétiens, on n'a pas à se défendre. On ne part pas du principe « je revendique des droits ». Surtout un pasteur ou un missionnaire, il est là pour se donner, pas pour prendre. Seulement, il y avait un gros problème dans l'église de Corinthe, comme dans pas mal d'églises du 1er siècle. C'est une église que Paul et son équipe missionnaire avaient fondée, cette église de Corinthe. Et après son départ, ben, c'était intéressant. Il y avait des croyants, il y avait des offrandes sans doute. Et des gens venaient, ce qu'on appelle des faux docteurs, des gens venaient souvent avec une lettre de recommandation de l'église de Jérusalem. Alors ça pouvait être une fausse lettre ou une vraie lettre, mais ils avaient pu rouler un peu les gens. Avec une lettre de recommandation de l'église de Jérusalem, l'église qui faisait référence, c'était l'église mère. Voilà, je suis un enseignant de la parole, recommandé par l'église, je passe dans votre région, je peux vous aider si vous voulez, mais bon, bien sûr, il me faudrait du logement, et plutôt bien, et puis une rémunération, je trouve que telle somme ferait l'affaire. Parce que vu mon expérience et vu ma connaissance et vu l'aide que je vais vous apporter, je pense que c'est un minimum, mais si vous voulez en donner plus, il n'y a pas de souci. Des gens qui arrivaient vraiment avec un intérêt financier et qui voulaient exploiter ces églises et qui n'avaient pas vraiment les moyens de savoir si ces gens-là étaient dans le vrai ou dans le faux, mais le fait qu'ils réclamaient ces avantages et cette rémunération, ça sonnait faux, surtout vis-à-vis du fondateur de l'Église, l'apôtre Paul et son équipe. Alors ces gens-là, comme ils venaient un peu comme le coucou qui arrive et qui met son petit dans le nid d'un autre oiseau pour qu'on le nourrisse gratuitement, comme ces gens venaient dans l'Église fondée par quelqu'un d'autre et profitaient de l'œuvre de quelqu'un d'autre comme de vrais voleurs, bien sûr, il fallait que pour se rendre intéressant, il critique le ministère de l'apôtre Paul. Ça s'appelle en français « grimper sur la brisée des autres ». C'est-à-dire, vous êtes tous sur une échelle, vous écrasez quelques mains, en montant, vous montez plus vite l'échelle et vous trouvez en haut de l'échelle. Et c'est ce qu'il faisait, casser du Paul pour pouvoir monter dans l'estime des Corinthiens. Comme il flattait la vanité des Corinthiens, ça passait très bien. Ils avaient compris comment ils pouvaient manipuler ces chrétiens superficiels. Et donc, l'apôtre Paul, il essaie de leur expliquer pourquoi, quand il était arrivé à Corinthe, d'abord, il ne s'est pas présenté comme un grand apôtre. Regardez-moi, vous savez, vous avez de la chance de m'avoir. Et puis, surtout, il savait que ces gens avaient un caractère superficiel et que tout ce que l'église de Corinthe pouvait lui donner, il pouvait lui en faire le reproche après. C'est assez terrible d'avoir les gens avec une telle mentalité. Et donc il leur a dit, je n'ai jamais accepté quoi que ce soit de votre part, je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit de votre part et je ne réclamerai jamais rien de votre part pour moi-même. Parce que vous êtes mes enfants spirituels, c'est aux parents de ramasser pour les enfants, c'est pas aux enfants de ramasser pour les parents. Mais il y avait d'autres églises où des gens avaient un caractère plus noble, comme à Philippe. Et les Philippiens, eux, ont réfléchi, mais il nous a donné l'évangile. Qu'est-ce qu'on lui a donné en retour ? Rien, mais c'est pas normal. On va lui faire des dons. Et ils avaient plusieurs dons vraiment généreux à Paul, alors que c'est une église pauvre. L'église de Corinthe était une église aisée, mais ils gardaient tout pour eux. ils étaient pas spirituels, vraiment. C'était une église qui a causé beaucoup de peine. Mais à travers ça, on découvre quelle est la pensée de Paul en tant que gagneur d'âme. Il gagnait les âmes, mais quelle était sa motivation? Et donc, dans les versets 16 à 18, on va voir sa motivation personnelle. Et ça peut nous servir d'exemple. Quelle est notre motivation profonde pour aller essayer d'amener les âmes au Seigneur? Dans le verset 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. » Alors, pourquoi essaie-t-il de gagner les âmes au Seigneur? Et ça, c'est la première question que l'on peut se poser. Peu importe le travail qu'on va faire pour Jésus, la première question, c'est qu'est-ce qui me motive profondément? Vous le savez aussi bien que moi, rien que l'idée d'aller dans la rue et amener sa Bible avec soi et essayer d'amener quelqu'un au Seigneur, ça fiche la frousse, comme on dit. Ça fait un peu peur. On se dit, heureusement que je ne vais pas seul, je ne sais pas comment je ferai, mais je redoute un peu, je n'ai jamais fait ça, peut-être que vous ne l'avez jamais fait, je découvre, et si je rate, enfin voilà, mais si on le fait, et on vous sortirez, il y a quelque chose en vous, comme à chaque être humain, à la fin, vous allez dire, quand même, je suis un gagneur d'âme maintenant, ça, je sais faire. Et combien de gens de mon église aujourd'hui ont gagné une âme au Seigneur comme moi, j'en ai gagné. Ou bien combien ont même essayé. Moi, je suis sorti avec ma Bible sous le bras, attention, hein. Là, j'ai pris du galon, hein. Je suis quelqu'un maintenant. Parce que Satan, il prend même les choses qu'on fait pour le Seigneur, surtout les choses qu'on fait pour le Seigneur, et il essaie de nous en rendre orgueilleux. Donc la motivation est essentielle. Est-ce que je fais pour me faire voir? Est-ce que je fais pour être mieux que les autres? Est-ce que je fais pour impressionner moi-même ou d'autres, ou les gens qui ont organisé le stage? Quelle est ma motivation profonde? Et on voit dans la motivation de Paul ici, il y a deux motivations. D'abord, il dit que c'est une obligation. Simplement, l'obligation m'est faite d'annoncer l'Évangile. J'ai même pas le choix. C'est quelque chose qui m'est imposé. Souvenez-vous, quand Paul était Saul, Tarse était sur le chemin de Damas, et il est terrassé par la lumière. Qu'est-ce qu'il dit? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Deuxième question, que veux-tu que je fasse? Magnifique suite de questions. Qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? C'est intéressant que dès qu'il savait que Jésus était son Seigneur, il pose la question la plus naturelle possible. Si tu es mon autorité, qu'est-ce que je dois faire? Tu me donnes des ordres, quel est mon premier ordre? Et Jésus, l'Esprit de Jésus avait dit à Ananias, cet homme est un témoin. Je vais en faire un témoin. Et il va annoncer l'Évangile au roi, aux païens et aux fils d'Israël. Il va témoigner. Et donc, autrement dit, il va gagner les âmes. J'ai embauché, j'ai converti, vous pouvez dire Jésus, j'ai converti en gagneur d'âmes. Voilà ce qu'il va faire. Il va fonder les églises et gagner les âmes au Seigneur. Donc, toute autorité a été donnée à Jésus-Christ. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Je dois être témoin. Et c'est la même chose pour nous. Si nous disons, Christ est mon Seigneur, on appelle le Seigneur, si Christ est mon Seigneur, on n'a pas vraiment une autre option que d'essayer d'amener les âmes à lui. Ça ne doit pas nous décourager que ce soit une obligation. Mais quand on serait tenté de ne pas, voilà, de trouver des raisonnements, le fait de savoir que c'est une obligation va nous sauver. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas à réfléchir là-dessus. C'est un ordre. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça, c'est un peu sec. Regardez 2 Corinthiens 5, verset 14. « Il dit l'amour du Christ lui presse. Il y a l'obligation, oui, il y a un ordre à obéir, mais il y a aussi le côté cœur. Et si on sort dans la rue en disant, voilà, je suis venu ici, c'est pas moi qui veux vous parler, c'est pas vous qui voulez m'écouter, mais tant pis, Dieu m'a ordonné de vous parler, donc je vais vous parler. Et si vous ne voulez pas, ça m'arrange. Mais enfin, je vais vous parler quand même tant que vous ne me renvoyez pas, parce que j'ai reçu l'ordre de le faire. Les gens ne vont pas tellement avoir envie de recevoir votre Seigneur. Mais si on va parce que l'amour de Dieu nous presse, si on va en disant, si quelqu'un ne m'avait pas parlé, peut-être mes parents m'ont parlé dans une famille chrétienne, mais si quelqu'un n'avait pas pris à cœur mon âme, aujourd'hui je ne serais pas sauvé. Et comme quelqu'un s'est occupé de moi et s'est intéressé à moi, j'ai le privilège de m'intéresser à quelqu'un d'autre.
Amen.
Dieu, il aime cette personne qui passe devant moi. Il aime tendrement. Et Christ est mort pour cette personne. Et puisque Christ vit en moi, je l'aime. Je l'aime parce que c'est une créature de Dieu. J'aime cette personne parce qu'elle a une âme qui va vivre éternellement. J'aime cette personne parce qu'elle a un avenir, qu'elle pourrait vivre avec Christ et elle ne connaît peut-être pas le Sauveur et j'ai le privilège de lui en parler. C'est à moi que revient le privilège de lui annoncer une merveilleuse bonne nouvelle qui peut changer sa vie. Si on voyait passer des cancéreux devant nous, et on savait qu'on avait le secret du cancer pour le guérir, on courait vers les gens. Et ça, c'est juste pour prolonger leur vie de quelques années. L'amour du Christ nous presse. Dieu aime cette personne-là. Je ne peux pas la mépriser. Dieu l'aime. L'amour du Christ nous presse. Mais il y a une troisième partie de cette obligation. C'est en raisonnement. C'est en raisonnement. Regardez, c'est la partie logique. Verset 14. Nous estimons, ou nous concluons, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'apôtre Paul se dit ici, Christ est mort pour moi. S'il n'était pas mort pour moi, je devrais mourir pour mes péchés. Je suis vivant sur la terre, j'ai quelques années de plus. Mais quand mon tour viendra, j'irai en enfer pour l'éternité. Parce que je ne peux même pas payer pour mes péchés. Je dois aller en enfer à cause de mes péchés. Et je ne pourrai jamais les payer, je ne pourrai pas jamais en sortir. Non seulement moi, mais toutes les personnes que je connais et que je croise finiront en enfer. Mais il dit, mais nous estimons. Parce que si quelqu'un l'a fait pour nous, dans la mesure où je peux dire je n'irai pas en enfer parce que quelqu'un est allé en enfer à ma place, c'est Jésus. Pour qui puis-je vivre autrement que pour lui? Vous imaginez, vous êtes en train de vous noyer et maître nageur vous sort et vous vous noyez, mais vous savez que vous allez vous noyer et il vous sauve la vie. Et quelques temps après, il passe vous voir, est-ce que je pourrais vous demander un service? Et vous dites, bon, écoutez, ça m'ennuie un peu, demander des services comme ça. Vous ne vous souvenez pas de moi? Oui, je me souviens de vous, oui, vous m'avez sauvé de la noyade, mais alors quoi, moi je ne vous ai rien demandé. Hein. Fou, c'est pas normal, c'est pas une réaction normale. La réaction normale, c'est, monsieur, je vous dois ma vie. Demandez-moi un service tous les jours, ça ne me gêne pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, logement, quoi que ce soit, vous avez besoin d'argent, ce que j'ai est à vous, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas intervenu, je ne serai pas là aujourd'hui à vous parler. Je vous dois ma vie. Alors, je ne vois pas quel service serait trop grand à demander. C'est la logique même. Et il dit, ben, si Christ est mort pour moi pour que je n'aille pas à l'enfer, quelle autre réaction, quelle autre conclusion puis-je avoir que de vivre pour lui qui est mort pour moi. Je vais le faire parce que lui m'a sauvé de l'enfer et moi j'ai le privilège de vivre pour lui. C'est la partie logique de son appel, de son obligation. En 2 Corinthiens 5, verset 20, encore une autre partie de cette obligation. Ce sont des raisons qu'il nous donne. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il dit que c'est une urgence. Quand on supplie quelqu'un, c'est que c'est urgent. On n'est pas, je vous suggère de vous réconcilier avec Dieu, enfin, quand vous voulez, hein, c'est, rien ne presse. Hein. Mais quand on vous supplie, mais soyez réconciliés avec Dieu, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain, vous pourriez mourir demain, je pourrais mourir demain. Nous aurions pu mourir hier, on n'aurait même pas jamais pu se rencontrer. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et aujourd'hui, avant de vous coucher ce soir, avant de vous endormir, vous pourrez être certain d'aller au ciel pour l'éternité. Ce n'est pas important. Nous vous supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a de l'urgence, mais il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de... Il y a une sorte de pression, mais c'est une pression qui vient de l'amour, qui ne vient pas d'une dureté. Supplier quelqu'un, c'est « que dois-je faire ? Je suis prêt à me mettre à genoux, il n'y a aucun problème. » Et il y a des gens qui disent « mais c'est horrible, le Dieu souverain, c'est au pécheur de se mettre à genoux devant lui. » Ce qui me touche vraiment, c'est que Jésus se met devant, à genoux devant les gens pour leur supplier de se réconcilier avec lui. Alors c'est lui qui a le droit de s'asseoir sur le trône et de dire « Je ne vous ai jamais connu, vous allez en enfer. » Il en a le droit parce qu'il a payé pour qu'il n'y ait pas. Il en a le droit parce qu'il a plaidé avec eux de se réconcilier avec lui. Alors il est parfaitement justifié à les condamner. Il n'est pas froid, il n'est pas glacial, il n'est pas de marbre. C'est lui-même qui a payé et qui supplie à travers nous, les hommes. Il a parfaitement le droit de les juger. Et une chose importante dans la gloire et l'honneur de Dieu, c'est que Christ sera vu comme étant parfaitement juste et équitable, même par les gens qui sont condamnés. Aucun au grand trône blanc va dire « c'est pas juste ». Ils vont être conscients de leur péché, ils vont être conscients de la justice de Dieu, ils vont être conscients, comme je pourrais dire comme les Anglais, du sens du fair play. Le Seigneur leur a vraiment donné une possibilité, le Seigneur a vraiment offert le salut, le Seigneur a vraiment plaidé avec eux, le Seigneur les a vraiment avertis. Et si, malgré tout ça, ils ont dit non, non, non et non, mais le Seigneur dit, de toute façon, je n'ai pas le choix. Vous avez choisi de vous éloigner de moi, j'en suis navré, mais vous allez partir. Et le pécheur vous a dit, oh Dieu, tu as raison. Je reçois exactement ce que je mérite. Personne ne dira que Dieu est injuste. Et pour que le pécheur dise que Dieu est parfaitement juste, il faut que ça passe par là. Ce plaidoyer, cette supplication, soyez réconciliés avec Dieu, c'est une urgence. Et puis c'est une dette aussi. En Romains 1,14, quand nous voyons quelqu'un dans la rue ou un collègue de travail, il est peut-être important pour nous aussi de dire, je suis comme un facteur. Si vous êtes facteur, d'ailleurs vous savez que c'est sévèrement sanctionné si vous êtes facteur de la poste de dissimuler le courrier qui est adressé aux gens sur votre route. Il y a quelques années, on a entendu parler d'un facteur qui s'ennuyait de faire cette tournée tous les jours. Et chez lui, on a trouvé plusieurs dizaines de milliers de lettres. Ben oui, il avait la flemme de les distribuer, alors il les stockait chez lui. Et sur plusieurs années, il avait des milliers. Les gens n'avaient pas reçu leurs lettres parce que, ben, selon lui, les amenait, ben, je les mettrai chez moi, je le ferai une autre fois. Puis il ne l'a jamais fait. Eh bien, il a fait de la prison. Pourquoi ? Parce qu'un facteur, tant que la dernière lettre n'est pas dans la dernière boîte aux lettres, il n'a pas fini sa tournée, il n'a pas fini son travail. Il doit ses lettres aux gens qui sont sur sa route. Et donc, dans Romains 1,14, Paul dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Je me dois, je vous dois l'évangile. Il dit, je n'ai pas jamais pu aller à Rome jusqu'à présent. Je sais qu'il y a des chrétiens chez vous, il écrit à cette église. Je sais que vous avez des communautés, mais je n'ai jamais gagné une âme à Jésus-Christ dans la ville de Rome. Et eh ben, j'estime que des gens qui habitent dans la capitale, je me dois de leur annoncer l'évangile moi-même. Vous le faites, mais je ressens aussi le besoin d'aller moi-même leur annoncer l'évangile à côté de vous. Et partout où je vais, je me sens comme le facteur qui a une lettre, une bonne nouvelle. Il faut absolument que je la distribue. Il faut qu'elle parvienne aux intéressés. Il ne faut pas que les gens ignorent la lettre que Dieu leur a envoyée et que je dois leur livrer. Et donc, en abordant les gens, nous leur livrons la lettre que Dieu leur a adressée. Nous sommes les facteurs. Et puis, ça c'est donc tout le côté obligation. Christ est mon autorité, il me dit de le faire. L'amour de Dieu nous presse. La logique, Christ est mort pour nous. Si on accepte qu'il meure à notre place, nous acceptons de vivre pour lui. C'est la vie échangée, si vous voulez. Il a pris mon enfer et moi je vis ma vie pour sa gloire. Et puis il y a une urgence, c'est une dette. Il y a une dernière partie là, c'est dans cette partie là de l'obligation, c'est 2 Corinthiens 5, 10. De Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On va paraître devant Jésus-Christ un jour, chacun de nous personnellement. Alors, je ne sais pas s'il va nous poser des questions. J'ai plutôt pensé que oui. Je suis papa. Et quand mes filles faisaient une bêtise... C'était, bon, je savais qu'elles avaient fait une bêtise, mais je voulais les entendre dire qu'elles avaient fait une bêtise. Ça fait partie de la pédagogie, de faire avouer à l'enfant pour que l'enfant participe à l'éducation. Et quand on sera devant le tribunal, nous allons rendre des comptes. Donc, on peut imaginer que Dieu va nous poser des questions par rapport à la manière dont on a vécu la vie chrétienne. Il connaît toutes les réponses. Mais imaginez devoir répondre devant le Seigneur qui sait déjà tout et de devoir dire les réponses qui nous font tellement honte parce qu'au tribunal du Christ, on sera rendu parfait et on va vraiment aimer le Seigneur comme on n'en a jamais aimé ici sur la terre. Et on va tellement plus honte de nos péchés à ce moment-là qu'on en a honte aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut désobéir au Seigneur relativement allègrement. Mais ce jour-là, toute désobéissance lui paraîtra horrible. Et on va rendre des comptes. Et donc, le fait qu'on va rendre des comptes un jour pour notre manière de vivre la vie chrétienne est un encouragement, c'est une, comment dire, une motivation supplémentaire. Je voudrais pouvoir dire au Seigneur ce jour-là que j'ai sincèrement essayé d'amener les âmes à lui. Je ne voudrais pas avoir lui dire que je n'ai jamais même essayé. Et pourquoi tu n'as pas essayé? Oh, mais je pensais que... Tu pensais que je ne les aimais pas? Ah non, non, je sais que tu les aimais. Tu pensais que ce n'était pas important? Non, je savais que c'était important. Tu pensais qu'elles ne valaient pas la peine, ces âmes? Non, non, si, elles valaient la peine. Alors pourquoi tu n'es pas allé? Je croyais qu'elles se moqueraient de moi. Tu croyais qu'elles se moqueraient de toi? Est-ce qu'elles se sont moquées de toi? Non. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais essayé. Mais non, mais si on se met un peu à l'avance dans cette conversation au tribunal de Christ, on dirait, mais vraiment, franchement, là j'aurais honte de cette conversation. Je m'enfoncerai et il n'y a aucun moyen de m'en sortir. Et toutes les questions de Christ sont sensées et toutes mes réponses sont ridicules. Je préfère, quitte à me faire manquer un petit peu, et ça c'est la moindre des mots, essayer de parler de l'évangile à quelqu'un. Au moins essayer! Donc ça c'est le côté obligation. Mais il y a aussi des récompenses. C'est un travail qui est fortement rémunéré. Si vous regardez par exemple en 1 Thessaloniciens 2:19, parce que Paul dit, il parle même dans ce passage de rémunération, quelle est donc ma récompense? C'est annoncer gratuitement l'évangile sans user de mon droit de prédicateur. Il dit aux Corinthiens, je soupçonne que les soi-disant grands enseignants bibliques qui sont venus chez vous, qui demandent ces salaires mirobolants et ce bon logement, j'ai comme un soupçon qu'ils ne sont pas vraiment motivés juste par le message. Ils sont motivés par les sonnantes et trébuchantes. Mais dis-moi, j'étais et je suis motivé par le message. Et pour vous le montrer, ma récompense, mon salaire à moi, c'est de pouvoir vous présenter gratuitement l'évangile sans rien réclamer en retour et même en refusant tout ce que vous pourriez avoir à cœur de me donner. Je veux que ce soit très clair entre nous, je le fais pour le Seigneur, je le fais pour lui être agréable, je le fais parce que c'est une dette et je suis heureux parce que je n'ai jamais rien su de votre main et quand j'arriverai au tribunal du Christ, le Seigneur le sait, il sait que mes mobiles étaient purs et le Seigneur saura me récompenser bien plus que vous. Je préfère cette récompense-là à celle que vous pourriez me donner. Ça, c'est ma récompense. Mais regardez ce qu'il dit en 2 Thessaloniciens. Pardon. 1 Thessaloniciens. Vous devriez penser... Ah non, je crois que c'est pensé. 1 Thessaloniciens 2,19. Il dit, « Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus ?» Lors de son avènement, oui, c'est votre gloire et notre joie. Si vous pouviez transformer des pierres dans votre jardin en bijoux, ce serait tentant de le faire. Hein? Il a dit, les âmes qu'on j'amène au Seigneur sont des joyaux précieux dans la couronne que Dieu me donnera. La couronne du gagneur d'âmes est composée de joyaux qui représentent des âmes qu'il a amenées au Seigneur. Il y a des clients d'avoir de belles couronnes. Et alors, il a dit, vous, quand je serai devant le Seigneur, vous serez le sujet de ma joie et vous serez le sujet de ma gloire. Le Seigneur va me féliciter, me récompenser à cause de vous, parce que vous êtes venus au Seigneur par mon ministère. Alors, vous trouverez toujours des chrétiens très spirituels pour dire, « Oui, oh, de toute façon, les récompenses, je n'en ai rien à faire. Moi, c'est Jésus que j'aime. Juste le fait de le voir face à face, ça sera mieux que toutes les récompenses. Vous savez, travail pour les récompenses, moi, je trouve ça égoïste. » Ce que ça cache, c'est « J'ai pas envie de faire servir le Seigneur. » J'ai entendu des chrétiens plus d'un qui dit, « Si on me l'a juste laissé entrer par la porte, me tenir debout dans le paradis, juste dans la toute petite place, ça me suffira, je n'ai pas de grandes ambitions, mais je ne veux pas aller à l'enfer. Autrement dit, j'aimerais juste aller au ciel, mais je ne veux pas servir le Seigneur, vivre ma vie comme je l'entends, mais je veux quand même mon billet pour la vie éternelle. Ça m'arrangerait bien. » Cette attitude ne tient vraiment pas compte de la personne de Dieu. Si Dieu place tellement d'importance sur les récompenses qu'il veut nous donner, ça veut dire qu'au ciel, ces récompenses nous paraîtront comme très importantes. Parce qu'au ciel, on va penser comme Dieu et pas comme nous pensons ici-bas. Quand la personne dit « je veux pas de récompense dans le ciel », ça veut dire, je travaille dur, mais pour les récompenses ici. C'est les récompenses ici qui m'intéressent, parce que là, je peux toucher, je peux les voir, je peux en profiter. Les récompenses au ciel, c'est un peu théorique. Oui, mais le ciel, ils veulent tellement aller au ciel, ces gens-là. Mais le ciel, quand on y sera réel. Et les récompenses seront réelles. Et au ciel, on va se rendre compte, ça, ce sont de vraies valeurs. Qu'est-ce qui m'a possédé de vouloir en amasser sur la terre, quand j'aurais pu en amasser ici. Et puis, de toute façon, quand on sera au ciel, on voudrait donner quelque chose à Jésus par reconnaissance. Les gens qui ont des couronnes, qu'ils ont reçues du Seigneur, ils vont pouvoir les jeter à ses pieds. Ça sera un accomplissement pour eux. Mais les gens qui arrivent sans rien. Il y a un cantique très émouvant, c'est écrit par un homme qui s'est converti tout à fait à la fin de sa vie. Il avait entendu l'évangile, mais c'est juste à la fin, et juste dans les derniers jours avant de mourir, il s'est converti, et puis il a écrit un poème, qui est devenu un cantique, « Dois-je y aller les mains vides ?» Il dit, « Est-ce que je dois rencontrer mon Sauveur les mains vides ?» Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Je n'ai rien fait pour toi. Je n'ai rien fait en ton nom. Il dit que ce sera triste d'aller les mains vides. Mon épouse, quand on va quelque part, elle veut toujours amener quelque chose. Ça, je ne comprenais pas. Les gens disent, venez chez nous. Je dis, ben, on va chez eux. Ils ne demandent rien. Pourquoi tu... Ah non, mais moi, je... Alors, j'ai pris du chocolat, j'ai pris des fleurs, j'ai pris ceci, j'ai pris... Bon, en 42 ans de mariage, j'ai compris. Je dis, c'est bien ma chérie, c'est joli tes fleurs, le chocolat, ça va leur plaire. Mais il faut qu'elle amène quelque chose. Elle veut, et c'est normal, j'ai compris, c'est moi qui ne suis pas normal, je n'ai aucun brin de reconnaissance, mais elle veut montrer... Non pas, je vous paye pour nous recevoir à votre table, c'est pas ça du tout. C'est que je veux vous donner quelque chose qui exprime notre reconnaissance de votre invitation. Je veux que vous compreniez que ça nous touche, mais je veux avoir une preuve visible que ça nous touche. Et si ça c'est vrai dans le psychisme humain, combien plus vrai quand on sera devant le Seigneur? Donc, une couronne pour le gagneur d'âme. Daniel 12, verset 3. Verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude... brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Alors vous dites, pour la première phrase, on repassera ceux qui auront été intelligents. C'est pas mon cas. Enfin, je pense que vous êtes tous bien intelligents, mais on peut penser qu'on n'est pas aussi intelligent que d'autres. Mais l'intelligence ici, c'est pas le QI. C'est enseigner la justice à la multitude. Parler de l'évangile aux gens. En gagneur d'âme, il enseigne la justice à la multitude. Il va trouver des gens un à un et leur parle de la justice de Dieu et comment ils peuvent être justifiés par Dieu, comment ils peuvent être sauvés. C'est ça, enseigner la justice à la multitude. Qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront un éclat, une splendeur, une lumière éternelle. Vous savez que tous les enfants de Dieu, tous les rachetés vont briller dans le ciel, comme les étoiles. En Corinthiens 15 nous en parle. Il n'y a pas deux étoiles qui ont exactement le même degré de luminosité. Et il n'y a pas deux chrétiens qui auront le même degré de gloire. Mais une chose est assurée, ceux qui ont enseigné la justice de Dieu à la multitude, ceux qui ont parlé de l'évangile à la multitude, aux gens qui ont gagné les âmes, ils vont briller d'un éclat particulier. Et ça, cet éclat sera éternel. Au bout de 3 millions d'années, on va regarder autour de nous et on va voir des rachetés qui brillent dans l'éclat lumineux. Et on va se regarder soi, on va dire, j'aurais pu briller avec un meilleur éclat si j'avais davantage servi le Seigneur. J'ai eu des occasions de le servir que j'ai négligé, que j'ai méprisé, que voilà, j'ai raté. Et je l'ai su au moment même que je désobéissais, et ben voilà, me voilà. Et c'est pour l'éternité. Et j'aurais pu briller un peu plus pour montrer mon amour pour Jésus. On ne va pas avoir de la jalousie ni rien au ciel, on sera rendu parfait. Mais, on nous fait réfléchir. Il y a une gloire éternelle. Et Proverbe 11, 30, le sage s'empare des âmes. Donc, Paul dit, moi, la rémunération, vos salaires, tout ce que vous voulez m'offrir, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la rémunération que Dieu m'accordera pour le travail que j'ai fait pour lui. Ça, c'est la motivation. Une fois qu'on est motivé, j'espère qu'on est motivé, il y a l'adaptation. Et nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 9. Alors, on est motivé à fond, là. On va sortir, et oui, mais on va rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas. Ils vont passer devant nous, ils vont avoir l'air qu'ils vont avoir, mais nous ne savons pas ce qui se passe ici. Nous ne connaissons pas leurs valeurs, nous ne connaissons pas leur philosophie. Comment s'adapter aux gens? Verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alors, s'il y a des versets qui sont abusés dans la Bible, ceux-là en font partie. Ces versets sont utilisés pour dire, avec ceux qui sont dans les boîtes de nuit, je vais dans les boîtes de nuit, je gigote avec eux, je me fais tout à tous. Et puis, dans notre église, on commence à gigoter aussi, comme ça les gens de la boîte se sentent à l'aise dans notre église. Il faut casser les murs entre l'église et le monde, pour que les gens du monde entrent dans l'église. C'est un semblant de logique. Mais ce n'est pas du tout selon la pensée de Dieu. Et ce n'est pas du tout ce que Paul a voulu dire ici. Pas du tout. Jésus a mangé avec des publicains et des gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit les pharisiens? Pourquoi ils mangent avec les pécheurs? Il n'y a pas de crime à manger avec les pécheurs. Le crime, c'est de faire comme les pécheurs et pécher avec eux. Mais ces pécheurs-là, eux, ils savaient qu'ils étaient pécheurs. C'est ça l'essentiel. Quelqu'un qui sait qu'il est pécheur, mais il est tout prêt à être sauvé. C'est rien à faire pour l'amener au Seigneur. Quand il sait qu'il est pécheur et perdu. Et c'était le cas des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais les pharisiens, ils s'imaginaient être justes. Alors ils n'étaient pas du tout en état d'entendre parler de leur péché et ne voyaient vraiment pas de quoi ils pourraient être sauvés. Jésus ne pouvait rien faire pour ces gens-là. Mais il pouvait faire quelque chose pour ces dégénérés, les publicains. Il pouvait faire quelque chose pour eux. Et comme il était médecin pour soigner les gens qui se reconnaissent malades, il passait son temps avec des malades. Les autres étaient malades aussi, mais ils le niaient. Donc, il ne pouvait rien faire pour eux. Un jour, il y avait un évangéliste dans un supermarché, son voisin, Lacoste, un peu moqueur. Alors, monsieur le pasteur, toujours en train de sauver les âmes, je suppose. Oh, ben non, il dit, j'essaie plutôt de les perdre. Ah, mais c'est pas bien de dire parler comme ça pour un homme qui porte l'habit. Vous savez, l'habit. Il dit, oui, mais si les gens ne se reconnaissent pas comme perdus, ils n'auront jamais le désir d'être sauvés. 75% du travail de gagner une âme au Seigneur, c'est l'amener à la conclusion qu'elle est perdue et qu'elle ne pourra jamais se sauver elle-même. Quand on a accompli ça, le dernier quart est beaucoup plus facile. Quelqu'un qui sait qu'il est perdu, il a envie d'être sauvé, et il est prêt à recevoir le Sauveur. Et c'est ça qu'il faut. Alors, c'est là où il s'adapte aux gens qu'il rencontre. Vous avez deux sortes de personnes en particulier. Dans l'Empire romain, vous avez des gens sous la loi, le juif. Aujourd'hui, ça correspondrait à l'homme religieux, catholique, protestant, juif, musulman, tous ceux qui sont religieux. Et puis, vous avez des gens dits athées, mais qui ne se réclament d'aucune religion et qui n'ont pas une pensée religieuse. Il dit, avec les juifs, j'étais comme les juifs sous la loi. Donc, il parle à un juif, à cause d'un juif, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous aimeriez aller au ciel pour l'éternité? Mais monsieur, c'est déjà tout vu. Je suis un fils d'Abraham, Moïse, les 10 commandements, je connais ma Bible par cœur. Et d'ailleurs, je fais aussi toutes les traditions de ma religion. Je suis d'ailleurs pharisien. Et Paul pouvait dire à qui Vous savez, je suis un ancien pharisien. Ah, mais c'est pas bien d'être un ancien pharisien. Moi, je suis un pharisien. Et puis, vous savez, la loi, j'en fais des tonnes. Hein? Et puis, je fais même des choses que Dieu n'a pas dites, mais qu'on a ajoutées, parce que ça fait mieux. Et puis, voilà, je le vis vraiment. Enfin, je trouve que je suis vraiment très, très bien. Avec ceux qui sont sous la loi, il dit, bon, alors il s'adapte. Il dit, bien, alors, mettons-nous sous la loi et parlons de ce point de vue-là. Alors, monsieur le pharisien, monsieur l'homme religieux, vous connaissez les 10 commandements? Oui. Quel est le premier commandement? Mais tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Sans passer aux autres, est-ce que vous pouvez me dire avec certitude que vous avez toujours aimé Dieu de toutes les fibres de votre être, depuis votre naissance jusqu'à cette seconde? Moi, j'ai essayé, mais vous n'avez pas réussi. D'ailleurs, moi non plus. Hein. Ah ben non, j'ai pas réussi. Mais vous essayez. Oui, ben j'essaie, mais c'est dur. Hein. Donc, vous n'avez pas réussi. Non. Eh bien, vous êtes condamné par la loi. Écoutez, je n'ai ni tué ni volé. Ça, on le sort souvent. Je n'ai ni tué ni volé. Comme si c'était les 200 commandements de la Bible. Le 10e commandement, tu ne convoiteras rien qui appartient à ton prochain. As-tu jamais voulu avoir un objet qui appartenait à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes jamais dit, cet objet-là, ce smartphone, ce machin, ça, j'aimerais bien l'avoir? Oh ben oui, des milliers de fois. 10e commandement, vous ne convoiterez rien, etc. Jésus va beaucoup plus loin, il va jusque dans les pensées. Donc, la loi, on parle à des gens qui sont sous la loi, ils se réclament de la loi montre le péché. Galate parle largement. La loi révèle le péché. Pourquoi Dieu a donné la loi s'il savait que personne ne pouvait l'observer? C'est la même raison pour laquelle on met un miroir devant un enfant qui est tout sale parce qu'il a joué dans la boue et qui vient au déjeuner et il pense que son visage est propre. Et vous n'arrivez pas à lui faire comprendre. Vous lui montrez la glace, il dit, oulala, là là, mais j'ai de la boue sur le nez. Ben oui, je te dis, va te laver avant de passer à table. Le miroir ne le lavera pas, mais le miroir lui montrera son besoin de prendre du savon. Et la loi, c'est le miroir qui renvoie l'image de nos imperfections pour qu'on comprenne que vis-à-vis de cette loi, on est perdu. Qu'est-ce que Dieu fait avec des gens qui n'obéissent pas à sa loi? Il les condamne. Vous n'avez pas obéi, et moi non plus. Qu'est-ce que Dieu peut faire de nous? Il doit nous condamner. Est-ce que vous aimeriez être sauvés? Donc la loi amène, révèle le péché, condamne le pécheur et révèle le besoin d'un sauveur. Après, vous avez un autre genre, les païens qui sont comme sans loi. Et pour parler avec eux, c'est Romains chapitre 2 qui est très utile. Romains 2. Alors là, on parle avec des gens qui ne font aucune référence à aucun cadre religieux. Je suis athée. Je ne croyais à rien. On tombe dans un trou à la fin. Vous en trouverez aussi. Mais est-ce que, monsieur, vous avez la pensée de l'éternité? Quand je dis le mot éternité, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah oui, mais je vois très bien. Éternité, c'est un temps qui est fini. D'où vient cette notion? Vous n'avez pas eu d'instruction religieuse? Non. Mais c'est vicié en vous. C'est chevillé au corps. Tout le monde pense à l'éternité. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La perfection, vous avez une idée de ce que c'est que la perfection? Oui, oui, je vois très bien ce que ça pourrait être. Est-ce que vous êtes parfait? Ah non. Hein. Et je ne connais personne qui le soit. Nous avons des notions qui nous dépassent très largement. On les a toutes. Tous. Et on a une idée de perfection, on a l'idée que l'on n'est pas parfait. Mais si on veut enfoncer le clou, verset 2, chapitre 2, verset 1, ô homme, qui que tu sois, ça c'est n'importe quel être humain, toi qui juges, et on juge tous, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et là, on peut attraper tout le monde, et nous aussi. Avez-vous jamais critiqué quelqu'un, en quoi que ce soit? Oh ben oui. Et est-ce que vous avez jamais fait à peu près la même chose ou vous avez eu la même réaction que vous avez critiqué chez une autre personne? Alors, s'ils sont honnêtes, oui, quand même. Bon, pas les mêmes circonstances, hein. Mais enfin, oui. Vous êtes donc inexcusable. Vous avez jugé vous-même. Vous avez critiqué quelque chose chez l'autre que vous avez fait vous-même, dont vous êtes aussi coupable que l'autre. Et en plus, vous savez que vous avez fait le mal parce que vous avez pu critiquer l'autre. Ça attrape tout le monde. Et là, on n'a pas parlé des 10 commandements. On a parlé de ce que nous critiquons et nous faisons la même chose que nous critiquons. Donc, nous sommes nous-mêmes fautifs par notre propre conscience. Verset 14, il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Dites à quelqu'un, vous arrêtez à quelqu'un et vous le tuez de sang-froid avec un couteau. Voilà, et voilà, vous tuez. Est-ce que c'est bien ou mal? Ah, c'est mal. Et d'où vient l'idée que c'est mal? Ah ben c'est mal. Mais d'où est-ce que vous avez cette idée? Dans votre conscience. Qui vous a enseigné que c'était mauvais? Pas besoin qu'on m'enseigne, je sais que c'est mauvais. Comment vous savez-vous que c'est mauvais? C'est la conscience. Nous avons tous une conscience, on a tous le sentiment du bien et du mal. Chaque fois que nous disons quelque chose, une petite voix vient nous dire, c'est bien ce que tu as dit. Ou, tu n'aurais pas dû dire ça. Ou, tu as dit ce qu'il fallait, mais ce n'était pas le bon ton. Hein? Notre conscience est avec nous. D'où vient-elle? On vous dira que c'est notre éducation religieuse, mais ce n'est pas vrai. C'est inné, c'est à la conception. La conscience est venue avec. Ça fait partie de notre vie intérieure. Tout le monde en a. Et la Bible dit, les païens, ils n'ont pas la loi, mais ils ont la conscience. La conscience dit, je sais ce qui est bien, je ne le fais pas. Je sais ce qui est mal, et je le fais trop souvent. Nous sommes condamnés par notre propre conscience. Nous sommes condamnés parce que nous avons critiqué les autres. On a fait la même chose qu'eux. Et donc, verset 22 de chapitre 3. Et verset 21. Mais maintenant, sans la loi, donc on parle avec des gens qui n'ont pas de loi, ils n'ont pas les 10 commandements, ils se disent athées, bon, ok, on n'est pas dans une religion, ok, vous êtes sans loi, mais sans la loi et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, pour les gens religieux, justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Ce verset-là, vous pouvez vous en servir pour amener une âme au Seigneur. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres versets là. Vous êtes athée? Oui, je crois en rien. Je n'ai pas de religion. Vous êtes religieux? Oh oui, profondément. Eh bien, si vous êtes religieux, la loi et les prophètes, la Bible, témoignent de ce Jésus. Si vous êtes sans loi, vous n'avez aucun arrière-plan religieux, Dieu vous manifeste sa justice en Jésus, c'est pour tout le monde. Dieu vous donne sa justice par la foi. Dieu vous déclare juste si vous croyez en lui. Si vous croyez qu'il peut vous déclarer juste, sans distinction. Un athée, un homme religieux, aucune importance pour Dieu. Si vous vous tournez vers Jésus-Christ de tout votre cœur, et vous croyez en son sacrifice, Dieu vous déclare juste. Il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, tous sont gratuitement justifiés, verset 24. Par sa grâce, la foi, la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot rédemption, j'aime bien cette illustration de mon enfance, parce que quand j'étais jeune, ma mère, elle collectionnait, vous savez, ces timbres qu'on donnait parfois dans les magasins. Dans le temps, c'était beaucoup plus fréquent que maintenant. Vous allez au magasin et on vous donnait 20 ou 30 timbres avec vos courses, comme des points, voyez. Et on lui donnait des petits cahiers avec des carreaux pour mettre des timbres. On pouvait compter le nombre. Il y avait 48 timbres par page, puis il y avait 24 ou 25 pages par cahier. Et quand elle avait deux ou trois cahiers, elle allait dans un magasin qui n'acceptait que ses cahiers de timbres. On ne pouvait rien faire avec l'argent là-dedans. C'était juste, on achetait tout avec des carnets de timbres. Et vous savez comment ça s'appelait? Un centre de rédemption des timbres. Moi, j'ai trouvé ça avec le côté spirituel. Vous entrez dans un magasin, centre de rédemption. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans ce magasin, ces timbres ont une valeur. En dehors de ce magasin, les timbres n'ont aucune valeur. La rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est que parce que Christ est mort pour nos péchés, il a versé son sang, il a payé sa vie d'une valeur infinie, il nous donne une valeur infinie. Si quelqu'un d'une valeur infinie meurt pour vous, ça vous communique une valeur infinie. Et donc, nous retrouvons toute notre valeur devant Dieu en Jésus-Christ. C'est la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et quand Dieu, donc, nous a fait, nous sommes partis dans le péché, il nous rachète et nous redonne une valeur parce qu'il nous déclare ses enfants, enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Donc, il dit avec les gens religieux qui disent il y a une loi, montrez-leur que cette loi, ils ont été incapables de la mettre en pratique. Par conséquent, cette loi les condamne, ils ont besoin d'un sauveur. Pour quelqu'un qui ne fait aucune référence à une loi ni à une religion, il a sa conscience qui pose des évaluations sur tout ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez conscience d'avoir toujours fait le bien et n'avoir jamais fait le mal? Ah ben non. Vous avez donc fait le mal? Oui. Pourtant, vous n'êtes pas religieux? Non. Mais comment, pourquoi pensez-vous avoir fait le mal? Ah ben parce que, j'ai une conscience qui me dit, c'était pas bien ce que j'ai fait. Mais d'où vient cette conscience? Pourquoi vous ne la faites pas déguerpir? Je peux pas, elle est en moi. Et ils ont raison. C'est le Créateur qui vous a donné cette conscience. Et cette conscience, c'est comme une boussole morale qui nous permet de nous montrer quand on a fait le mal. Eh bien, ce mal que vous avez fait et que j'ai fait, vous, que nous avons tous fait, vous et moi, nous avons besoin de pardon. Mais celui qui nous a donné cette conscience, il a une conscience aussi. Et il est au-dessus de nous puisqu'il nous a créés. Et lui, il veut nous réconcilier avec lui-même. Et on peut présenter l'évangile. Alors, il dit, avec les faibles, j'étais comme des faibles. Pourquoi Paul dit-il, j'étais comme des faibles? En Romains chapitre 7, on peut et il faut parler aux pécheurs de nos faiblesses. C'est très important. Il ne faut pas que ces gens-là aient l'impression que vous descendez tout droit du ciel. Vous avez l'auréole autour de la tête, la Bible dans la main, et je viens vous apporter la vérité. Heureusement que je suis là. Je suis le don de Dieu à l'humanité. Voilà. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non. Si Christ est devenu totalement homme pour s'identifier à nous, nous devons nous identifier aux gens qui sont devant nous. Quelqu'un vous dira, et vous savez, j'ai vécu dans l'immoralité. Peut-être vous n'avez jamais vécu dans l'immoralité, peut-être vous avez cette chance. Mais vous pouvez dire, mais je vous comprends, je ne vous juge pas. Combien de fois j'ai eu la pensée de l'immoralité? Je ne l'ai pas pratiquée, parce que le Seigneur m'a gardé, mais... Je comprends, je ne vous juge pas. Mais vous avez besoin d'un sauveur, comme j'avais besoin d'un sauveur. Avec les faibles, j'étais comme les faibles. En Romains 7, versets 18 à 25, on ne va pas tout lire, mais il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Parfois, c'est important quand quelqu'un vous parle de quelque chose qui le trouble, de pouvoir vous identifier à lui, de vous adapter à lui et lui dire, si vous n'avez pas commis le péché, vous en avez eu le désir, vous y avez pensé, vous avez été tenté, vous ne l'avez pas fait, mais vous n'êtes pas plus innocent. Parce que souvent les gens, ils disent, ah ben de toute façon, le salut, alors il y a beaucoup de gens qui pensent, le salut n'est pas pour moi. Un bon catholique qui est passé par le divorce dira, de toute façon, j'ai commis un péché mortel, je suis divorcé. Donc je ne peux pas être sauvé. Il faut pouvoir avoir une compassion et vous identifier à la personne. Christ s'est identifié à la femme samaritaine. Attends, c'est impressionnant. Il n'a pas jugé une seule fois. Et si tu connaissais le don de Dieu, il a décrit sa vie. Tu as eu 5 maris, 5 divorces, et tu vis avec un concubin. Tu as dit vrai. Mais ce n'était pas pour l'enfoncer. C'est pour dire, je connais toute ta vie. Et elle a dit, mais tu es un prophète. Alors, attends, j'ai une question. C'est incroyable, sa réponse. Et puis, la tendresse du Seigneur. Il n'était pas coulant, mais il était plein de compassion. Il n'a pas minimisé son péché ni rien, mais il lui parlait comme à une vraie personne. Et c'est ça qui l'a touché. Et donc, les gens, ils ont besoin de ressentir, non pas, c'est pas en étalant notre vie, mais de comprendre que nous comprenons où ils en sont et que comme Christ vous a sauvés, il peut les sauver. L'apôtre Paul dit, moi, je suis le premier des pécheurs. Et c'était pas comme ça pour faire bien. Premier pécheur parce que j'ai persécuté les chrétiens. Je tuais des chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens. Je veux dire, on ne peut pas être plus horrible que ça. Mais il a dit, Christ a manifesté à moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple. Et si quelque chose dans notre vie peut aider les gens à comprendre que Dieu peut les sauver aussi, eh bien, allons-y. Mettons-nous avec eux à leur niveau. J'étais faible avec des faibles. Il s'adapte à tous, c'est-à-dire il se met dans la peau de la personne à qui il parle. C'est très important. Comment je me sentirais si j'étais dans la peau de cette personne, si j'ai vécu la vie qu'elle a vécue, comment j'écouterais ce que je suis en train de lui dire? Est-ce que la personne qui est en face de moi peut ressentir, si elle veut bien, l'amour de Dieu et l'intérêt de Dieu et mon intérêt personnel pour son âme? C'est pour ça que gagner les âmes, c'est quelque chose qui vous draine émotionnellement. S'il s'agit simplement d'annoncer l'évangile, genre, écoutez, moi je vous lis mes 4 versets, vous faites la prière, ça vous intéresse? Super, ça vous intéresse pas, c'est pareil, moi ça m'est égal. Alors là, vous n'avez, émotionnellement, vous n'avez rien fait, vous pouvez faire ça pendant des heures, et vous sortez comme une fleur. Il n'y a pas de problème. Mais on a notre âme là-dedans, on a nos sensibilités, on ne veut pas heurter, mais on veut dire la vérité, mais on veut l'écouter, mais on veut comprendre sa pensée, il faut l'écouter très attentivement. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, par exemple, Étienne me parle, alors il est en train de raconter la partie de sa vie qui lui fait le plus de peine et il commence à avoir les larmes qui perlent sur le coin de ses yeux. Et puis, moi je regarde là-bas, je vois mon camarade. Et attends, oui, non, mais je viens bientôt. Oui, qu'est-ce que tu disais? La personne se ferme comme une huître. Ça ne s'intéresse pas à moi. Et si vous êtes dans une équipe, vous êtes 2 ou 3. Et vous voyez, ça arrive souvent, c'est que vous êtes 2 ou 3, 2 souvent, mais voilà, vous êtes 3. Il y a très souvent, il y a une personne qui aborde. Et on voit que ça connecte bien. Alors les 2 autres, ne vous mêlez pas à la conversation.
Amen.
Laissez-le faire. Parfois, la personne qui aborde le premier, on sent que ça ne passe pas, une deuxième personne, vous êtes sensible, vous venez, vous offrez 2 ou 3 mots, vous essayez de, voilà, et le contact se fait. Alors le premier, il dit, le contact se fait avec mon camarade, je me retire d'un pas ou deux, j'écoute, mais je suis là, mais je laisse la personne. C'est-à-dire, tant qu'il y a un progrès qui se fait, la personne qui a fait un lien avec la personne avec qui vous parlez. Laissez-le poursuivre sa mission. Et c'est peut-être vous la prochaine fois. Et il n'y a pas de concours à qui va prier le plus souvent avec des gens. C'est, on est en équipe et Dieu fait ça. Et la deuxième personne peut souvent aider la première en la laissant tranquille, en priant dans son cœur pour elle et en évitant des sujets de dérangement. Par exemple, si quelqu'un d'une autre équipe vient un peu désœuvré, vous savez, il est temps de rentrer, alors au lieu de dire, viens, on rentre là. Non, on dit, je vais dire à mon camarade, quand on a fini, on vous rejoint. On protège la conversation. Et on joue ce jeu. Et là, on est autant membre de l'équipe que si on était en train de parler. C'est très important, ce travail d'auxiliaire. Et le but, c'est dans l'équipe, c'est on veut que les âmes viennent au Seigneur, peu importe lequel d'entre nous le Seigneur se sert. Amen. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais voilà, alors je termine. 23 à 27 et je vais terminer. Oui. Le côté corps. On a parlé de la motivation, de la concentration, plutôt de l'adaptation. Et maintenant, la concentration. Dans 1 Corinthiens toujours 9, 23 à 27, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il n'est pas en train de parler de se priver de nourriture, de flageller son corps, de traiter durement. Il n'est pas en train de parler de dormir sur un lit de pointe, vous savez, pour s'aguerrir. Non, pas du tout. Il parle d'un contexte de jeu sportif public et de haut niveau ici. Il montre dans le verset 24 une attitude de vainqueur, une attitude de gagnant, pas simplement de participer. Et dans les jeux grecs, comme dans les jeux olympiques, comme ils disent, rien ne vaut l'or. Tous les athlètes sérieux courent pour avoir l'or. Alors vous entendez des gens parfois, et bon, ils sont lucides. Ils disent, notre athlète, il n'a pas le niveau des plus grands athlètes du monde. S'il peut finir dans les 10 premiers, ce sera déjà bien. On dit d'accord. Bon, il est à ce stade de sa carrière, on le comprend. Mais si son but est toujours juste de participer, il ne va jamais gagner l'or. Celui qui gagne la première place, c'est qu'il il a travaillé pour gagner cette première place. Et s'il ne la gagne pas, il considère qu'il a échoué, il est déçu. Même s'il a gagné l'argent, il est plus déçu que celui qui a dit « Oh, l'essentiel, c'est de participer, j'ai fini 9e, ça ne me gêne pas. » Oui, mais le gars qui a fini 2e, il est frustré parce qu'il voulait finir premier. C'est-à-dire, il a une attitude de gagner la course. Donc, c'est une motivation et c'est une concentration, l'idée de la concentration. Il est vrai qu'on ne maîtrise pas ce que fait Dieu. Nous ne maîtrisons pas l'attitude des âmes. Mais si on va dehors ou n'importe où pour servir Dieu, on dit « J'aimerais bien, Seigneur, si tu permettais de prier avec quelqu'un cet après-midi. J'aimerais bien amener quelqu'un à toi. Seigneur, si tu le permets, je vais faire ce que je peux faire pour amener quelqu'un à toi. » C'est tout à fait une autre attitude que de dire, on va sortir, il fait beau aujourd'hui, on va discuter avec quelques personnes, montrer quelques pages de la Bible, si on a la possibilité, et puis voilà, tranquille, à 6h on rentre, et puis on est bien. Voilà. L'attitude n'est pas la même. La concentration n'est pas la même. On n'est pas du tout dans la pensée, je veux gagner. Non pas gagner pour moi-même, mais faire équipe avec Dieu, faire l'œuvre de Dieu avec lui, la concentration. Alors, ça induit une discipline. Il parle d'athlètes. Les athlètes ne font pas une discipline bête. C'est-à-dire, ils s'abstiennent de tout ce qui ne favorisera pas directement leur performance sportive. On sait bien qu'il y a des gymnastes qui, pendant des mois et des mois, se privent de sucre, de bonbons, et mangent d'autres trucs. Ils mangent beaucoup de protéines. Ils changent leur, ils se couchent à une certaine heure. Ils dorment un certain nombre de temps. Ils sont très disciplinés. Et s'ils n'étaient pas leur entraîneur, les pour eux. Hein, c'est, je veux que tu arrives. Et non, attention, là, tu as couché trop tard. Tu fais la fête. Oui, mais une fois que le truc est terminé. Mais pas avant. Voilà. Il faut rester concentré. Là, tu sens une petite baisse physique. Il faut que ça revienne. Alors, ils sont intraitables. Ils sont des très, très bons. Mais l'entraîneur dit, tu veux aller jusqu'en haut? Alors, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu m'obéisses et je t'amènerai là-haut. Mais une discipline de fer. Et donc, celui qui veut vraiment gagner les âmes au Seigneur, il va dire, il y a des trucs qui sont intéressants, mais ça ne m'aide pas vraiment pour mon travail. Je laisse tomber. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça ne favorise pas. Comme un athlète. Et puis, il y a quelque chose de la boxe. Tout le monde a vu les matchs de boxe et tout ça. On a toujours vu des boxeurs avant le match. On les voit dans, pas dans l'entraînement, mais juste avec leurs gants. Quand ils viennent vers le ring, ils sont entre nous. Alors, ça fait bien. Mais au moins, ils se font pas mal. Mais ils tapent dans l'air. C'est tapent dans l'air. Alors, c'est bien pour se dégourdir, mais c'est vraiment pas le match de boxe. Ils vont rencontrer d'autres gants. Hein, quand ils arrivent dans le ring. Et Paul, il dit ici, je ne suis pas en train de boxer mon ombre, là. Nous sommes dans une vraie bataille avec le Seigneur à nos côtés. Nous sommes dans son équipe. Nous avons les gants de boxe, il est avec nous. Mais en face, il y a un adversaire. Et c'est sérieux. Et je sais qu'il y a un enjeu. Et je sais que Satan n'est pas content qu'on sorte. Et je sais que Satan est assis sur mes genoux pour que je ne me lève pas de ma chaise pour sortir. Quand j'étais jeune, notre directeur de mission disait, attention, le diable est assis sur vos genoux. Levez-vous et il tombera et puis vous pouvez sortir. Mais il y a toujours une petite voix qui dit, oh, tu n'as pas besoin de faire ça, voilà, c'est bon. Mais il y a la recherche d'une vraie bataille. Paul dit, j'ai envie d'en découdre. J'ai envie d'y aller avec l'aide de Dieu. Je veux travailler avec lui. Je veux essayer d'amener les âmes au Seigneur. Et je sais qu'il y aura une bataille. Et je suis prêt avec l'aide de Dieu, toujours avec l'aide de Dieu. Je sais qu'il y aura un effort. Ça va coûter quelque chose. Jésus, quand il était sur la terre, dans une journée, c'était des journées à rallonge, hein. Il se levait très tôt le matin, il priait pendant des heures, il sortait, il voyageait de village en village, prêchait toute la journée, guérissait les gens à tour de bras. Et vous souvenez-vous, quand la femme est venue avec la perte de sang, a touché le bord de son vêtement, il dit, il a senti qu'une vertu était sortie de lui. La puissance de Dieu qu'il avait accumulée par la prière et la communion avec son Père, mais il en distribuait toute la journée. Il avait besoin de refaire les batteries, pour ainsi dire. Et c'est la même chose pour nous. De prier, de compter sur Dieu, d'y aller confiant et joyeusement. C'est très important d'y aller joyeusement. Moi, j'étais déjà allé, genre... Oh, il y a quelqu'un là, c'est bam. Après, je me suis détendu. Attends, j'ai une bonne nouvelle. Je vais aller. Le Seigneur a dit qu'il serait avec moi. Or, jamais ce côté boxer avec l'ombre. C'est-à-dire, je prie, j'agonise pour les âmes. J'espère que Dieu verra ça et qu'il m'en donnera. Ça, c'est plutôt humain. Et on lutte avec des ombres. Dieu est vainqueur. Christ est vainqueur. Il va nous accompagner. On sort, on parle de l'évangile, le Seigneur prépare les cœurs, on peut s'attendre à le voir agir, il faut être souple, il faut vraiment écouter les gens, mais on peut y aller joyeusement et de manière détendue. De toute façon, si on est stressé, très stressé, les gens s'en aperçoivent, ils disent qu'est-ce qu'il essaie de me fourguer celui-là? Il essaie de me vendre un truc, il essaie d'avoir fait du chiffre, il est sous pression, qu'est-ce qui se passe? Et on n'a pas besoin d'être sous pression. La pression de l'amour de Dieu pour les âmes, c'est une bonne pression. La pression de vouloir travaille avec Christ. Mettons notre main dans la main du Seigneur, en disant, toi, tu es grand, je suis tout petit, j'y vais avec toi, tu vas me conduire, tu vas nous conduire vers les âmes, et nous, on va essayer de parler de l'Évangile, et toi, tu vas toucher leurs âmes, et puis donne-nous le privilège de te servir, de servir avec toi. C'est vraiment très important dans notre cœur et pensée. Dieu est très grand, je suis très petit, ma main est dans la sienne, et on va partir ensemble pour faire un travail avec lui. Et on est ouvriers ensemble avec Dieu.